Histoire de psychanalyse par Jacqueline Miller. Aujourd'hui, le plus et le moins.
La société, la nôtre, est aujourd'hui animée, entraînée, aspirée par un prodigieux dynamisme juridique. Le ressort de ce dynamisme, son maître mot, c'est l'égalité des droits. Et qui devrait être égaux? Les individus, c'est-à-dire chacun. Chacun en tant qu'il est un. Chacun vaut autant que chaque autre et il prétend au même droit. Et tout ce qui fait obstacle dans la société à cet impératif d'égalité juridique est un jour ou l'autre, tôt ou tard, stigmatisé comme une discrimination, comme une injustice et fait l'objet de revendications. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis qu'il y a là un impératif très puissant qui bouscule toutes les institutions, les habitudes, les mœurs. La famille organisée autour du nom du père, la procréation procédant du corps de la mère, qui étaient des données immémoriales et qui semblaient invariables, voilà qu'elles sont remaniées, transformées par des innovations juridiques et aussi scientifiques qui vont se multiplier. La difficulté principale, c'est le rapport entre le droit et la vie. Car la vie ne s'ajuste pas facilement au droit. Ce qui est biologique fait difficulté à tout ce qui est juridique. L'enfant fait problème, car il n'est pas autonome. Alors comment préserver ses droits? Comment le protéger, y compris de ses protecteurs? La conception fait problème. L'embryon est-il, oui ou non, un individu? Est-il investi dès le premier moment de droits qui interdisent de le supprimer? Et enfin, la sexualité elle-même fait problème. Le fait que l'individu est sexué, le fait qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, la différence sexuelle devient très difficile à penser par rapport à l'égalité. Oh mon Dieu, pourquoi y a-t-il des hommes et des femmes? Au regard de l'égalité idéale des individus, n'est-ce pas une infraction scandaleuse, arbitraire? Et du coup, le masculin, le féminin, on se demande si c'est pour de vrai. On décrit le masculin, on décrit le féminin, mais on se demande si ce sont vraiment des identités ou simplement des identifications. Des façons de faire comme si être homme, être femme, est-ce du semblant? Est-ce du théâtre? Plus précisément, est-ce du théâtre social? Est-ce que ce ne serait pas seulement une affaire de rôle différent dans différentes cultures? Chez nous, il faut l'avouer, pour ce qui est des rôles masculins, féminins, il y a du nouveau tous les jours. La mode exerce son influence. Les utopies foisonnent. À chacun d'inventer sa façon de vivre sa sexualité. On imagine parfois que tout serait à reprendre à zéro. Et en face, c'est logique, la tradition se rebiffe. On s'insurge au nom de la parole de Dieu, ou de la nature, voire du principe de précaution. Et c'est là que l'on peut se tourner vers le psychanalyste et lui demander « Que dit l'inconscient ? Quels sont les messages que l'on reçoit de l'inconscient à ce propos ? L'inconscient est-il pour, est-il contre ? » Eh bien, sur la sexualité, l'inconscient semble être déphasé, comme s'il n'était pas au courant, pas informé de tout ce qui se passe dans la société et dans l'histoire. On dirait qu'il ne lit pas le journal, qui ne regarde pas la télévision, qui ignore les événements collectifs, qu'il est plutôt à répéter toujours la même chose, à rééditer des stéréotypes. Il faut encore savoir lesquels. Et là, tous les psychanalystes n'entendent pas la même chose ou ne comprennent pas la même chose. Freud, pour en revenir à lui, pensait que l'inconscient avait des idées bien arrêtées sur ce que c'est qu'une femme et ce que c'est qu'un homme. Il y a, selon lui, une expérience cruciale qui fixe une fois pour toutes la représentation des deux sexes dans l'inconscient. C'est la vision de la différence anatomique des corps. De cette vision, il résulterait que la femme aurait quelque chose en moins que le mâle, qu'elle serait marquée à tout jamais du signe moins. Elle serait donc vouée à être celle qui n'a pas, à pâtir inconsciemment d'une injustice irréparable et à désirer, à envier, à revendiquer éternellement ce qui lui manque. C'est ainsi que les femmes sont apparues à Freud dans sa pratique de psychanalyste, comme des êtres souffrants, affligés d'une douleur originelle, radicale, incurable, qui fait surface tôt ou tard. Des êtres tenus pour inférieurs, non seulement par les hommes, c'est-à-dire par ceux qui ont, mais tenus pour inférieurs par elles-mêmes. Des êtres d'emblée victimes, blessés, handicapés, fragiles, affligés d'un manque et cherchant toujours à le compenser, à le réparer, à le masquer. Il voyait toujours derrière chaque femme se profiler ce manque. C'était la grille de lecture suivant laquelle il entendait les propos de ses patientes. Elle désire un enfant, c'est pour combler son manque. Elle se cramponne à un homme, c'est pour combler son manque. Elle soigne son apparence, elle se fait belle, elle se regarde, elle regarde les autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'image de son corps soit exaltée, splendide, afin de voiler le manque dont ce corps est en réalité frappé. Aujourd'hui, on en veut beaucoup à Freud de cette conception de la femme. On pense qu'il exprimait seulement les préjugés de son temps. On lui reproche d'avoir accordé, comme on dit, la primauté au phallus. On s'imagine qu'il justifiait le privilège social et politique des hommes, des mâles. Pour mettre un bémol à ces reproches, il ne faudrait pas oublier que Freud a été sans doute le premier à écouter vraiment les femmes, à prendre au sérieux leurs discours, leurs plaintes et aussi leurs fantasmes. Et ces fantasmes sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas corrects, ils ne sont pas ce qu'on voudrait qu'ils soient. Il arrive qu'une féministe très décidée, une vraie battante, entre en analyse précisément, parce que dans ses fantasmes, pour atteindre à la jouissance, elle est obligée de s'imaginer elle-même être une femme battue, maltraitée. Ou encore, voilà, une femme qui aime son compagnon, et pourtant, elle ne peut se livrer à l'acte sexuel qu'en imaginant que son corps est celui d'une autre, avec qui il la trompe, et elle reste frigide. Il y a là une division, une opposition entre les valeurs et les fantasmes qui est vécue dans l'incompréhension et souvent la souffrance. Il y a une inertie des fantasmes qui fait problème, et ce problème peut être long à résoudre dans une analyse. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses depuis Freud. La libération des mœurs, l'exhibition des corps, l'éducation sexuelle, que sais-je encore. Mais c'est un fait toujours actuel que la découverte des organes sexuels, du désir sexuel, de l'acte sexuel ne va de soi pour personne, jamais. Elle laisse toujours cette découverte des traces inoubliables. Elle reste déterminante pour l'orientation de la vie sexuelle, pour son style. Bref, c'est si l'on veut une surprise. La femme freudienne n'a pas disparu. On la retrouve sur le divan, alors même que notre temps n'est plus le même. Mais, Il n'y a pas une seule et unique façon de lire, de comprendre ce dont il s'agit dans ce signe moins que Freud a mis en évidence. Et d'abord, quelle est la vraie nature de ce plus qui ferait le privilège du mal? Ce signe plus est donné à un organe bien connu, bien visible, saillant, préhensible, qui attire l'attention et qui joue un grand rôle dans la représentation de soi-même qu'à son propriétaire. Mais justement, propriétaire, il ne l'est pas tant que ça. Et tout indique qu'il est plutôt encombré de cet organe qui n'en fait qu'à sa tête. Cet organe ne répond pas aux impulsions de la volonté. Il n'est pas une partie du corps comme les autres. Il est plutôt dans le corps comme une principauté autonome, ou même comme une enclave, hors corps. Montaigne, dans les essais, disait que cet organe était inobédient, qu'il n'obéissait pas. C'était avant le Viagra. L'homme est celui qui a cet entendu. Mais justement, ce qu'il a, il ne l'a pas complètement. Son bien, sa propriété, est toujours menacée. Cet organe est à la fois jouissance et symbole. Pour ce qui est de la jouissance, l'organe est en effet le siège d'une jouissance évidente, bien délimitée, qui peut même se compter, mais cette jouissance est plus celle de cet organe lui-même que du corps tout entier. Cette jouissance est jouissance de l'organe et non pas jouissance de l'être. Il y a aussi le symbole. Cet organe est depuis toujours le support d'un symbole, le symbole du désir sexuel. C'est la forme glorieuse du phallus érigé. Mais dans la réalité, cette forme est à éclipse. On ne le sait que trop bien. Ce n'est pas un état permanent. Et c'est un fait qu'une fois que cet organe a joui, il déchoit de sa splendeur. Donc il faut bien voir le paradoxe. Il y a une inversion de signe entre anatomie et jouissance. Quand il s'agit de la jouissance, le signe moins est du côté de l'homme. Quand il s'agit de faire l'amour, c'est l'homme qui fait la pointe avec une partie de son corps, c'est lui qui apporte l'instrument, et dans l'acte, il le voit disparaître, il le perd, il reste en quelque sorte désarmé. La jouissance du mal est ainsi toujours à la fois limitée et menacée. Cette limite et cette menace qui marque sa jouissance marque aussi sa pensée, ses fantasmes, sa manière de vivre son corps et d'éprouver sa vie. On trouve toujours chez l'homme, d'une façon ou d'une autre, la présence d'une limite à ne pas franchir, qui est aussi une limite qu'on ne franchit qu'à ses risques et périls. Des bornes s'imposent à lui. Il s'organise dans un petit espace qui est comme la projection, si je puis dire, du petit organe. C'est du côté de l'homme que l'on trouve les hautes valeurs de la prudence, de la juste mesure, du juste milieu, du point trop n'en faut. Il y a la règle qu'il faut respecter, il y a l'ordre, un ordre impersonnel qui s'impose à tous également. Il y a le respect, la distance à préserver, la hiérarchie, le conformisme, tout se passe comme si le fait d'être le support du symbole faisait les hommes tous pareils, et mettaient chacun à sa place dans un ordre partagé. Et c'est aussi pourquoi l'homme est hanté par des fantasmes de transgression. Franchir la limite, aller au-delà, atteindre à la toute-puissance, exalter des idéaux, faire exception. Il est pris en tenaille entre le tous pareil et l'exception, comme entre obéissance et héroïsme. Et justement, du côté femme, il n'y a pas ce rapport fondamental à la limite. La jouissance féminine n'est pas confinée à un lieu précis du corps. Elle va au-delà de la jouissance d'un organe. Elle mobilise tout le corps, tout l'être. Elle est envahissante, elle déborde, on ne sait pas où la situer, on s'y perd. Elle n'est pas marquée du signe moins. Mais ce serait encore trop peu dire qu'elle est marquée du signe plus, c'est plutôt le signe de l'infini, du sans limite, qui marque la sexualité du côté femme. Certes, cela ne va pas sans difficulté. Le sans limite peut faire difficulté à une femme dans son rapport au corps, rapport à la forme et à l'unité même de ce corps auquel elle peine à se reconnaître et qui s'accompagne de sentiments d'absence, d'incomplétude, d'inconsistance. Il y a aussi le rapport aux autres femmes. Contrairement aux hommes, elles ne sont pas toutes pareilles. Chacune s'éprouve au contraire comme différente. Et c'est ce qui fait que la question « qu'est-ce qu'une femme ?» est si présente, si pressante, parfois si angoissante pour une femme, et qu'elle cherche la réponse en épiant les autres, parfois en s'attachant à une autre femme, fait idéal. Quant au rapport à la jouissance, il peut apparaître à une femme comme un abîme sans fond, alors elle se retient d'y entrer, d'y tomber, elle s'absente, elle s'anesthésie, elle s'imagine être une autre. Il arrive aussi que pour se protéger de cet abîme, elle cherche un homme qui, comme on dit, lui mette des limites. On la voit alors esclave parfois. Les hommes, de leur côté, se sont évertués depuis toujours à imposer des limites à la jouissance des femmes, à la faire rentrer dans l'ordre qui protège leurs propriétés menacées. Ce que l'on appelle la civilisation, les civilisations, ce sont les différentes façons que l'on a pu inventer de réfréner la jouissance des femmes. Une femme, justement, parce qu'elle n'a rien à perdre, est beaucoup plus détachée que l'homme à l'égard de l'ordre et de la règle. L'homme, justement parce qu'il est un propriétaire, est lourd, gêné, embarrassé par l'avoir, et c'est ça précisément qui peut se sublimer dans les grandes idées, dans l'idéalisme, dans l'héroïsme. Mais combien plus libre par rapport au symbole, combien plus vrai, plus réel, apparaît alors une femme, est capable d'aller bien plus loin, aux extrêmes, sans entendre raison, intrépide. Le courage lui est bien plus naturel qu'à l'homme, le courage de tous les jours, comme celui des circonstances exceptionnelles. Cette femme est celle que décrit souvent Lacan, et elle est l'envers de la femme freudienne. Mais, attention, ce ne sont pas ici des portraits, des caractères à la Labruyère. Car la sexualité n'est pas une donnée pure et simple. Chacun, chaque être parlant, se sexualise d'un côté ou de l'autre, du côté mâle ou du côté femme. Et donc, j'ai certainement pris quelques risques pour essayer ici de vous faire entendre quelles sont quelques-unes des grilles de lecture dont les psychanalystes, les différents psychanalystes, usent pour écouter celui ou celle qui vient les trouver.
Histoire de psychanalyse par Jacques Alain Miller. Réalisation Christine Berlamont, Éric Boisset. Demain, le secret de tout le monde.
Helsinki, en Bruxelles.
Helsinki,
à Bruxelles.
Sintonise en France Culture, en Internet.
Écoutez France Culture sur l'Internet.
franceculture.com.
Dès 14h cet après-midi, Tire ta langue explore toutes les facettes de notre communication. La langue que l'on défend, que l'on découvre ou que l'on adopte dans ses évolutions. Et tout de suite, les chroniques du week-end réapparaissent et se déclinent au jour le jour. Ce mardi, Hubert Reeves, entre science et poésie, nous livre quelques pistes de réflexion.